À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Senua's Saga Hellblade 2. On parlera des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, d'une news concernant le jeu Call of Duty Black Ops 6. On aura ensuite une news technologie avec une arme à énergie dirigée digne de Star Wars qui va remplacer des missiles coûteux. Et on terminera avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le test de Senua's Saga Hellblade 2. Donc c'est un jeu vidéo d'action-aventure qui est jouable en solo. Il a été réalisé et scénarisé par Tamin Antoniadze avec la musique que vous entendez de Heilung. Le jeu a été développé par Ninja Theory et édité par Xbox Game Studios et il fait suite à Hellblade Senua's Sacrifice qui était paru en 2017. Donc il est sorti sur Windows et Xbox Series le 21 mai 2024 et comme je l'ai dit, donc Senua's Saga Hellblade 2 suit les événements de Hellblade Senua's Sacrifice où l'héroïne Senua va jusqu'en enfer viking pour retrouver l'âme de son mari. Le jeu est classé PEGI 18 et il obtient une note de 16 sur 20 de la part de jeuxvideo.com pour une note globale de 81 sur 100 sur Metacritic. Donc il a été le premier jeu annoncé sur Xbox Series X et a immédiatement incarné la promesse Next Gen. Dévoilé avec une bande-annonce sidérante qui a provoqué un tonnerre d'applaudissements aux Game Awards 2019, Senua's Saga Hellblade 2 porte sur ses épaules l'obligation d'impressionner, sous peine de décevoir ses fidèles et que tout se retourne contre lui. Heureusement pour Ninja Theory et Microsoft, Senua est une guerrière émérite qui maîtrise son job, elle coupe le souffle. Donc vous pouvez oublier tout ce qui représentait le top du réalisme et de l'animation dans nos univers vidéoludiques jusqu'à présent. The Last of Us Part 2, Gears 5, Horizon Zero Dawn, Alan Wake 2, Demon's Souls, tous connaissent un nouveau maître étalon visuel à partir d'aujourd'hui. Tous sont balayés par le puissant revers de main technique de Senua. Donc si j'attaque directement ce test d'Hellblade 2 par ses graphismes, c'est parce qu'ils sont tellement renversants qu'on ne peut pas faire autrement. Ils écrasent tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent, à tel point qu'on ne sait parfois pas ce qui est jouable de ce qui ne l'est pas. Il arrive à quelques reprises de penser que des séquences n'étaient que des cinématiques en CGI, avant de nous apercevoir qu'il fallait bien pousser le stick pour avancer. Et que dire de l'ambiance sonore, les sons sont extrêmement détaillés, les musiques sont superbes et les voix dans la tête font toujours leur petit effet. L'extase est provoquée mécaniquement par des expressions faciales d'un niveau inégalé dans le monde du jeu vidéo, utilisant la technologie MetaHuman d'Epic Games, couplée à une performance capture dernier cri, Senua's Saga Hellblade 2 restitue à l'écran le moindre tressaillement du visage des acteurs. Les regards sont pleins de vie, les émotions sont fidèlement retranscrites et on ne ressent à aucun moment l'Uncanny Valley, dont souffrent trop de productions qui ne jurent que par le réalisme. Les mouvements des cheveux, les plis des vêtements, les contractions des muscles, tout est géré avec une précision jamais vue. Il suffit d'activer le mode photo pendant un combat afin d'admirer le travail d'orfèvre réalisé par Ninja Theory. En outre, le jeu des acteurs est crédible, tandis que la VOST est de bonne facture. Il est malgré tout dommage que Microsoft n'ait pas pensé à proposer une VF pour les voix, tant le jeu est bavard, même pendant les phases d'action. Et donc pas besoin d'attendre une mise à jour, le mode photo d'Hellblade 2 est immédiatement opérationnel. Complet et ergonomique, il donne l'opportunité de gérer facilement les sources d'éclairage, la profondeur de champ, ce qui doit être visible ou non, c'est du beau boulot. Donc à côté de ça, les décors sont eux aussi impressionnants, quoiqu'un poil trop figé. Cela colle avec l'impression de désolation constante qui se dégage de l'œuvre, où les panoramas époustouflants semblent s'excuser d'être agréables à l'œil. Dans cette Islande du Xe siècle, sculptée par la glace et le feu, dont les lieux ont été recréés par photogrammétrie puis retravaillés sous Unreal Engine 5, les détails abondent et les effets spéciaux pullulent. Il n'y a bien que l'eau que l'on aurait aimé voir un petit peu plus précise dans ses reflets. Cette démonstration technique n'est gâchée par aucun élément d'interface à l'écran, le joueur progressant sans qu'un orbe ne lui montre qu'une interaction est réalisable. Ninja Theory a poussé le curseur au maximum pour proposer une aventure définitivement cinématographique, comme les possesseurs d'Xbox en ont toujours rêvé, quitte à choisir un format 2,39:1, non désactivable, ce qui ajoute malheureusement des bandes noires sur un écran 16:9. Une décision qui ne fera sûrement pas l'unanimité. Donc le réalisme visuel d'Hellblade 2 est dingue, et ça tombe bien puisque l'aventure parle une nouvelle fois de folie. Après avoir défié les dieux pour sauver l'âme de Dillion, Senua se met en tête de venir en aide aux victimes des horreurs de la tyrannie, en libérant les opprimés de leurs chaînes et surtout de leurs geôliers. Le problème, c'est que dans sa tête, elle n'est pas toute seule. Senua est atteinte de psychose, elle voit et entend des choses que les autres ne perçoivent pas. Dans cette aventure sombre où la mort se dissimule derrière chaque panache de vapeur d'eau, les faux-semblants sont courants. Il est donc normal de constater que la majeure partie des puzzles est basée sur l'observation d'éléments, qu'il s'agisse de glyphes à retrouver dans le décor en dénichant le bon angle, ou de bulles capables de modifier l'environnement en temps réel. Les environnements eux-mêmes portent les stigmates des particularités de l'héroïne. Il est en effet courant d'arpenter des cavernes ayant un effet kaléidoscopique déroutant, ou tout simplement d'être téléporté dans une arène cauchemardesque en un battement de paupières. Les thèmes abordés dans Hellblade 2 sont nombreux et vont de la responsabilité des aînés dans les traumatismes des plus jeunes à l'aliénation de l'humain lorsqu'il désire contrôler ses semblables. À la fois intimiste et extravagant, évoquant l'infiniment petit pour nous faire craindre le géant, Senua's Saga est ambitieux dans son propos et dans la manière de le traiter. S'appuyant sur les travaux de l'université de Cambridge ainsi que sur l'expérience de personnes victimes de psychose, le soft édité par Microsoft n'est pas adressé à tout le monde. Il ne s'appuie sur aucune béquille narrative pour faciliter l'identification, à l'exception peut-être des larmes de Senua. Mais si l'effet de surprise n'est plus là, le scénario est suffisamment captivant pour nous donner envie d'en voir plus. Donc par ailleurs, dans sa section bonus, le soft fournit deux vidéos qui circulent déjà sur la toile. La première est un petit reportage sur la manière dont Ninja Theory a traité la psychose, et la seconde est un résumé des événements du premier volet. Donc contrairement à ce que certains joueurs pourraient peut-être s'imaginer, surtout depuis que c'est la firme de Satya Nadella qui finance le projet, Hellblade 2 reste un jeu strictement narratif, linéaire, fait de couloirs, de combats, d'énigmes et de cutscenes. Il conserve la formule de son aîné en ne faisant évoluer que certains points et ne doit en aucun cas être envisagé comme un God of War Ragnarok, pour ne citer que lui, qui est un jeu d'action-aventure plus généreux dans son gameplay. Senua n'a ni grappin, ni arc, ni pouvoir magique. Elle ne bondit pas, ne doit pas faire d'aller-retour et ne rencontre pas de protagoniste lui proposant d'améliorer les caractéristiques de son épée. Aucune quête annexe n'est de la partie dans cette fuite en avant d'environ 8 heures. Des passages secrets sont bien présents afin de récupérer quelques collectibles, mais l'œuvre de Ninja Theory prend la forme d'une ligne droite, ce qui peut donner l'impression d'être face à une grande scène cinématique interactive. Impression malheureusement appuyée par des séquences marquantes où il n'y a que trop peu de choses à jouer véritablement, à l'image de la fameuse scène du géant qui avait été dévoilée au Game Awards 2021. Donc c'est sûrement le prix à payer pour bénéficier de l'expérience narrative la plus aboutie visuellement à ce jour, maîtrisée de bout en bout, produite par un studio à taille humaine et qui a des choses curieuses à raconter. Voilà, on va faire une petite pause dans ce test, on va s'écouter une chanson extraite de l'OST du jeu. Donc c'est In Meijian de Heilung et on revient juste après.
Oh,
Donc c'était Heilung avec la chanson In My Jan, une chanson extraite de l'OST du jeu Senua's Saga Hellblade 2. On continue donc avec la deuxième partie de ce test. Donc bien que la formule d'Hellblade 2 n'ait pas changé par rapport à celle du premier épisode, avec ce mélange habituel d'exploration narrative, de puzzle et de combat, on note tout de même quelques modifications, voire des évolutions. En ce qui concerne les énigmes, ces dernières ont été revues et corrigées, les portails et autres masques d'illusion ont disparu, au profit de bulles flottantes à observer pour faire apparaître ou disparaître des éléments du décor. Il y a aussi des passages où il est demandé de ruser pour faire passer la flamme d'une torche dans le but d'en allumer d'autres. Donc c'est classique, oui, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le temps qu'il faut prendre pour ouvrir une porte bloquée par des glyphes ou pour résoudre un puzzle est quand même moins long que dans le premier volet. Le rythme de l'aventure gagne donc en intensité, d'autant plus que la mise en scène fait un bond de géant en avant, s'autorisant des ellipses bienvenues lors des déplacements, de quoi découvrir du pays. Ce sont surtout les combats qui connaissent les changements les plus spectaculaires. Alors qu'ils avaient tendance à traîner en longueur et à être relativement brouillons dans Hellblade Senua's Sacrifice, cette suite les rend plus impressionnants et cinématographiques que jamais. Dans le fond, il faut toujours effectuer des coups légers ou violents, réussir des parades et esquiver intelligemment, jusqu'à remplir sa jauge de furie, puis infliger des dégâts énormes à différents types d'ennemis. Dans la forme, par contre, les combats sont désormais de véritables chorégraphies délicieusement brutales. Vous venez d'ouvrir le ventre d'un ennemi avec votre lame, alors un autre adversaire surgit dans votre dos puis s'accroche, avant que d'autres ne débarquent dans une sorte de vaste danse macabre. Dans les faits, les affrontements se font cette fois-ci toujours en un contre un, mais les opposants s'enchaînent comme si tout avait été enregistré en une seule prise dans un studio de motion capture. Pour faire simple, les duels paraissent être issus d'un véritable film d'action chorégraphié à la seconde près. C'est clair, net et précisément étourdissant. Par ailleurs, de nombreuses options d'accessibilité sont disponibles dans les paramètres. En plus des trois niveaux de difficulté classiques, il y a également une option dite dynamique qui rend les combats plus faciles ou compliqués en fonction des résultats du joueur. Le jeu ne perdant jamais de temps à expliquer ses systèmes, c'est au joueur de comprendre ce qui est réalisable ou non. C'est à lui de découvrir qu'il ne devient pas plus puissant au fil de l'épopée et qu'il n'y a ni arbre de compétences ni mécanique spéciale pour améliorer sa puissance. Hellblade 2 vise les sensations et ne s'encombre d'aucun rouage qu'il juge inutile, mais qui lui aurait permis de gagner en profondeur. Dans un genre ayant beaucoup évolué ces dernières années, le positionnement de Senua's Saga est forcément risqué. 100% linéaire à une période où le grand public n'a Dieu que pour le monde ouvert, disposant d'un gameplay simple sans compétences à améliorer alors que la RPGisation, parfois à outrance, fait fureur, il s'autorise à miser sur ce qui lui semble essentiel pour raconter son histoire. Avec une volonté qui fait plaisir à voir, même si elle peut faire grincer les dents. Donc pour résumer les points forts du jeu, on a donc un jeu d'une beauté à couper le souffle, qu'il s'agisse des personnages ou des environnements, un rythme effréné soutenu par une mise en scène soignée, des combats d'une violence rare chorégraphiés avec style, une ambiance sonore divine, des puzzles moins ennuyeux que par le passé et plein d'options d'accessibilité. Pour les points faibles, on a l'accès exploration, l'aspect exploration qui n'a pas du tout évolué, puisqu'on est donc sur une ligne droite. Le gameplay est très simple, voire simpliste, ce qui peut donc refroidir les ardeurs. On a le format en 2,39:1 non désactivable, avec la présence de bandes noires sur un écran en 16:9, et pas de voix française, donc on a uniquement la version originale sous-titrée, alors que le jeu est très bavard. Donc baissez les lumières, montez le son et éteignez les cierges. Senua's Saga Hellblade 2 réussit son pari dingue d'être la claque visuelle next gen tant espérée, même si les traces laissées par sa main portent les stigmates du jeu 100% narratif de 2017, avec un gameplay simpliste et une exploration en ligne droite. Plus condensé, plus brutal aussi, la création de Ninja Shiori change finalement peu la formule d'origine, mais renforce tous ses rouages au point d'en faire une belle machine de guerre. Donc si jamais vous êtes abonné au Game Pass, jetez-vous dessus, vous devriez passer un très bon moment. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est celle qui a été utilisée pour le trailer du jeu, donc c'est Sate de Heilung, et on revient juste après.
Thank you.
Donc c'était Heilung avec la chanson Sight qui a été utilisée pour le trailer du jeu Senua Saga Hellblade 2. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec le top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch, on a donc en 5ème place Sea of Stars sur Nintendo Switch, un jeu de Sabotage Studio. En 4ème place c'est Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 3ème place c'est Stellar Blade sur PS5, un jeu de Sony Interactive Entertainment. En 2ème place Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Et en première place, c'est Princess Peach Showtime sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Le top 3 pour la PS5, on a en troisième place EA Sports FC 24. En deuxième place, c'est Top Spin 2025. Et en première place, Stellar Blade. Pour la Xbox Series, on a en troisième place EA Sports FC 24. En deuxième place, Top Spin 2K25. Et en première place, Cyberpunk 2077, l'édition Ultimate. Pour la PS4, on a en troisième place Top Spin 2K25. En deuxième place, c'est Red Dead Redemption 2. Et en première place, EA Sports FC 24. Pour la Xbox One, on a en troisième place Grand Theft Auto 5, l'édition Premium. En deuxième place, Red Dead Redemption 2. Et en première place, Hogwarts Legacy. Le dernier top, c'est le top 3 PC, avec en troisième place X-Plane 12, en deuxième place EA Sports FC 24, l'édition Ultimate, et en première place, c'est Minecraft Java and Bedrock. On passe maintenant à la news jeux vidéo. Donc après une multitude d'indices repérés à droite, à gauche durant les dernières semaines, les réseaux sociaux de la licence Call of Duty ont dégainé une publication que les fans de la licence attendaient depuis longtemps. Il est temps de reprendre les armes, un nouvel épisode de Call of Duty vient d'être officialisé et c'est une série de jeux que la communauté apprécie tout particulièrement. La conférence Xbox promet d'être explosive. Donc il faut le reconnaître, une année vidéoludique n'aurait pas la même saveur en l'absence d'un épisode de Call of Duty. Pour tout un tas de joueurs, c'est l'une des sorties à ne pas manquer et la perspective de participer à des parties endiablées en multijoueur avec d'autres compagnons d'armes. Cependant, l'opus qui allait succéder à Call of Duty Modern Warfare 3 sorti en 2023 était attendu au tournant pour une raison bien précise. Depuis la sortie de cet épisode, il s'est passé quelque chose de très important, l'officialisation du rachat d'Activision Blizzard King par le géant Microsoft. Donc par conséquent, il s'agit là du tout premier épisode post-acquisition et potentiellement le début d'une nouvelle ère pour la licence de jeux de tir. Aujourd'hui donc, à quelques jours de la traditionnelle période du Summer Game Fest, riche en informations et en nouveautés, la communauté avait forcément les yeux rivés sur Call of Duty et sur les différents studios qui travaillent sur la licence. L'an dernier, Call of Duty avait préféré attendre un peu plus longtemps et s'était dévoilé le temps d'un segment assez conséquent lors de l'Opening Night Live de la Gamescom, présenté par Geoff Keighley. Or, cette année, tout porte à croire que Call of Duty fera le show lors du Summer Game Fest et de la conférence Xbox. Car oui, il y a eu du mouvement ces derniers temps, et pas qu'un peu. Donc pas plus tard que mercredi, on a commencé à avoir des signes avant-coureurs du retour de Call of Duty. Aux alentours de 20h, l'insider Bill Bilken, devenu une valeur montante et sûre dans l'actualité du jeu vidéo, avait publié sur son compte X un visuel volontairement flouté de ce nouvel épisode de la licence Call of Duty. Étant donné son caractère de plus en plus fiable, on s'est dit que l'annonce officielle ne serait qu'une question d'heure, et c'est bel et bien ce qui s'est produit. Dans le courant de la journée, de nouveaux éléments ont corroboré la révélation du jour. Le studio Treyarch revient aux commandes et nous livrera donc Call of Duty Black Ops 6 en 2024. Le nom peut faire tiquer sur le coup, mais il semblerait que l'éditeur Activision considère l'épisode Cold War comme le cinquième volet de cette sous-branche de la licence Call of Duty. Sur les réseaux sociaux officiels de la licence, la célèbre série de jeux de tir annonce le lancement d'un nouveau chapitre sombre de la franchise Black Ops, tout en partageant une première vidéo promotionnelle. Du côté des développeurs, on ne cache pas la joie de revenir sur le devant de la scène à travers cette branche phare de la licence d'Activision Et c'est avec un gif extrait de la saga John Wick qu'ils ont laissé entendre que ce comeback n'allait pas faire dans la dentelle. Maintenant, on se languit d'une démonstration de gameplay. On passe maintenant à la News Technology. Donc, le ministère de la Défense britannique a dévoilé une nouvelle arme high-tech promettant de remplacer très avantageusement les projectiles conventionnels pour l'élimination de différentes menaces. Largement utilisés dans le cadre du conflit russo-ukrainien, les drones kamikazes représentent aujourd'hui une facette incontournable de la guerre moderne. Pour éliminer ces dispositifs coûtant entre quelques milliers et quelques dizaines de milliers d'euros, des missiles en valant chacun plus d'un million sont actuellement tirés. En raison de stocks limités et du coût faramineux de tels projectiles, plusieurs gouvernements se tournent aujourd'hui vers les armes à énergie. Chères à produire, celles-ci présentent deux avantages de taille. Un coût par tir absolument imbattable et la possibilité de continuer à fonctionner tant qu'elles sont alimentées électriquement. Pouvant être manipulées par une seule personne, l'arme à énergie dirigée par radiofréquence britannique peut détecter, suivre et engager des menaces multiples à une distance allant jusqu'à 1 km. Selon ses concepteurs, les cibles principales du dispositif pouvant être montées sur n'importe quel véhicule militaire seront les circuits électroniques et électriques des drones et des aéronefs qu'il endommagera ou détruira à l'aide de salves d'ondes électromagnétiques. La présentation de l'arme capable de neutraliser un essaim de drone pour seulement 12 centimes d'euros illustre une nouvelle fois les ambitions du gouvernement britannique, dont les dépenses en matière de défense du territoire devraient atteindre 2,5% de son PIB d'ici 2030. Développée dans le cadre du projet Ealing, l'arme à énergie dirigée par radiofréquence, ainsi que le laser Dragonfire, feront l'objet de tests avancés dans le courant de l'été qui viseront notamment à étendre leur portée. Voilà, on va maintenant finir l'émission avec les deux petites sorties de la semaine. Donc on aura une sortie mardi 28 mai avec Multiversus sur PC, PS5 et Xbox Series. Et on aura donc pour jeudi 30 mai la sortie de Scald Against the Black Priory, donc qui sera disponible sur PC.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble que vous pourrez retrouver lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchè fête.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.